vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 14, Femme et Blas sont sur un bateau, ils tombent à l'eau. Chers amis, bonjour. Ah, mais c'est une histoire triste. Alors, vous connaissez la petite blague que l'on fait aux enfants. Pince-mi et pince-moi sont sur un bateau. Pince-mi tombe à l'eau. Il reste qui ? Pince-moi. Aïe ! Bon, ça, c'est le côté histoire drôle. L'histoire triste, c'est Femme et Blas qui sont sur un bateau. Ils tombent tous les deux à l'eau. Alors, cela se passe en Méditerranée. Le secours arrive. Heureusement, Femme et Blas savent nager. On les sort de l'eau, on les sèche, on les ramène au port. Et on leur dit, soyez gentils, si vous avez un bon métier, si vous vous lavez bien les dents le matin et si vous mangez des schnitzel panés le soir, alors on vous garde. Vous aurez le droit de demander la permission de vider les poubelles, mais faudra attendre les papiers. Et surtout, ne rien dire, ne pas parler. C'est comment encore votre nom ? Ah ben, moi c'est Blas. Et vous ? Ben, moi c'est Femme. Ah, eh bien, Blas et Femme, vous allez me raconter votre histoire. Pourquoi vous êtes partis de chez vous ? Et pourquoi vous êtes tombés à l'eau ? Vous avez de la chance, parce que dans notre beau pays, la liberté de penser, de dire ce que l'on pense, c'est comme de l'oxygène pour un noyé. Et cela porte un joli nom. C'est le blasphème. Alors, les deux rescapés du Titanic en plastique de la Méditerranée se disent « Bizarre, 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 comme c'est bizarre. Si c'est comme cela ici, nos noms sont prédestinés. C'est que ici, nous sommes chez nous. Là-bas, au pays qu'on a quitté, on n'a même pas le droit de dire nos deux noms ensemble. On nous coupe la langue. Et ici, on nous donne des knacks, de la choucroute et de la flammekuche, de la vraie Mitzvelenspeck, Sechkeut. Donc, ma question à nos invités... Sur ce bateau, est-ce qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans l'eau ? Je pense qu'il faut poser tout de suite la question à un maître nageur à la piscine de la Kibitzeno, Zoé Harpel. Faut-il avoir peur de l'eau ?
Alors, je suis plutôt maître nageuse à la Kibitzeno. Faut-il avoir peur de l'eau ? Ça dépend du maître nageur. Moi, je suis plutôt maître nageuse doudou. Parce que quand moi-même, j'ai appris à nager à la piscine, les maîtres nageurs nous attachaient les pieds. Et puis, en fait, on devait agiter nos bras pour essayer de rester en surface. Et puis, en fait, on se disait, pourvu que je vois la perche pour pouvoir la tenir, pour que je puisse remonter, parce que sinon, je vais encore me faire engueuler parce que j'ai raté la perche, etc. Donc aujourd'hui, avec des maîtres nageuses doudou, pas besoin d'avoir peur de l'eau. On se jette à l'eau et hop, on est rattrapé.
Bon, c'est un petit peu insolent par rapport à nos amis qui sont dans la Méditerranée, mais est-ce que ce n'est pas un rêve, en dehors de toute considération comme ça, dramatique, hein, que l'on ne dénigre pas ? J'imagine, moi aussi, à votre âge, 7-8 ans, j'apprends à nager et je vois la maître nageuse au bord de l'eau. Alors, disons un petit peu plus tard, vers 12 ans, 13 ans, si je fais semblant de me noyer. Encore une fois, c'est un petit peu insolent par rapport à tous ceux qui traversent la Méditerranée. Mais je fais semblant de me noyer, je sors de l'eau et la maître nageuse vient me faire le bouche à bouche. Est-ce que c'est possible, ça ?
Ah ben, si on est en danger, bien sûr. Et je ne trouve pas que ce soit insolent vis-à-vis des personnes dont vous parlez, puisque je pense que la bienveillance, elle est aussi là dans la Méditerranée. Hein. On peut être maître nageur doudou et venir, venir en aide à ces personnes-là, tout en étant prompt à faire du bouche à bouche pour la situation que vous décrivez, si c'est vous, par exemple. Mais moi, je le fais plutôt pour les personnes entre 25 et 45 ans, le bouche à bouche.
Ah oui, il y a quand même des limites et tout.
Oui.
Oui. Alors, bon, revenons à notre bateau en Méditerranée qui ne sait pas où aller. Et donc, pour pouvoir rentrer dans un port, ben, il faut le faire parfois par effraction. Alors, je me tourne vers comme une image qui est un expert en effraction. Alors, j'explique tout de suite avant de lui donner la parole. En fait, il se met dans la peau d'un voleur, hein, une sorte d'Arsène Lupin, et il rentre dans une usine, une maison, pour qu'on puisse comprendre Où sont les failles, c'est ça ?
Exactement. Donc, on rentre chez la personne bah, qui nous a commissionné, hein, car on est expert en effraction, mais en effet, on n'est pas voleur. Donc, on fait ça légalement. Et donc, on nous demande, voilà, nous avons carte blanche pour aller... Alors, ça peut être, par exemple, pour une entreprise, ça peut être avoir l'accès à la salle des serveurs et arriver à exfiltrer voilà, les données de la trésorerie ou que sais-je. Ou ça peut être aller voler les diamants de telle ou telle personne.
Pourquoi la salle des serveurs, yo, service, net ?
Non, mais pour... Parce que la salle des serveurs, c'est là où sont stockées toutes les informations sensibles. C'est-à-dire que dans l'entreprise, ça va être l'endroit où informatiquement, tout ce qui est important va être accessible à quelqu'un d'extérieur.
Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est lorsque l'on refuse l'accès à un port, à un bateau, pourquoi il ne va pas... s'arrêter au bord des rochers quelque part parce que c'est trop dangereux ou parce qu'il pourrait, les côtes sont tellement longues que ce serait possible, non ?
Possible sans doute, mais il faut aussi voir que si jamais il cherche à débarquer n'importe où, qu'est-ce qu'il fait une fois par terre ? Qu'est-ce qu'il fait une fois à terre ? S'il n'y a rien, s'il n'y a pas de ville, s'il n'y a que de la forêt ou des rochers, les rescapés ils seront bien avancés et ils ne pourront pas être accueillis.
Oui, alors je me souviens d'un bateau qui s'appelait l'Aquarius et qui ne pouvait aller nulle part parce qu'il battait pavillon, je ne sais plus, italien, Libéria, Panama. Et je me suis dit, par exemple, le conseil régional d'Alsace ou du Grand Est, le Grand Intestin, là, lui donnait le pavillon. Eh ben, ils auraient le droit de venir. Alors, il faudrait peut-être, faire des accords. Mais si le bateau avait l'Aquarius, avait le pavillon Alsace, est-ce qu'à ce moment-là, il aurait le droit ? Parce que je pose la question parce que, justement, on a un spécialiste d'aquarium, hein, Kai Littmann. Bon, officiellement, vous êtes vendeur de poissons rouges, mais vous êtes quand même... un spécialiste des aquariums, je ne parle pas d'Aquarius, la fameuse chanson avec la flûte, la traversière de...
Aqualung, Jeff Rattle.
Jeff Rattle, oui, ça c'était formidable. Mais là, vous vendez des poissons rouges, mais est-ce que ce n'est pas une façon un petit peu masquée de penser à tous ces problèmes dans l'eau, hein, des bateaux?
Non, mais vendeur de poissons, ça a presque l'air un peu méprisant. Je suis à la tête d'un magasin qui s'appelle le Koi de Kai, et je ne vends pas que des poissons rouges, mais surtout des koi. Et mon conseil à tout le monde, je rejoins un peu ma collègue, il faut mettre les enfants dès le plus jeune âge dans l'aquarium pour qu'ils apprennent à nager. C'est une sorte de sélection naturelle qui fonctionne dans 99% des cas. Les bébés se mettent à nager et une fois qu'ils tombent dans une situation un peu compliquée par la suite, eh ben, ils sauront nager.
Donc, ils remontent, ils flottent.
Ils remontent et ils flottent et ils nagent et ils arrivent à la rive sans aucun problème.
D'accord, mais le 1% qui reste au fond de l'eau ?
Ah ouais, mais vous savez...
La sélection naturelle.
Ah non, non. Oui, c'est...
Oui, oui, alors bon, là, on a le président de l'association de 570 millions de consommateurs, c'est-à-dire toute
175,
l'Europe.
Tout de même, 75, vous oubliez, 5 millions.
Il y a 5 millions qui viennent, parce qu'on compte le Chypre du Nord.
Oui, voilà, c'est ça.
Enfin, il n'y a pas 5 millions d'habitants. Mais enfin, depuis 1974, enfin... ils sont toujours occupés, mais...
Vous savez, c'est très compliqué, c'est le marasme, ces zones-là.
Bon, alors, en tout cas, Louis Haddock, hein, donc, alors je précise, Haddock, votre nom s'écrit...
A-D-H-O-C.
Donc, vous n'êtes pas capitaine.
Ah,
non,
voyons.
Non. Donc, en tant que juriste, hein, puisque vous faites... Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de se débarrasser d'un centième de la population en les noyant dans l'eau, quoi?
Oh, j'ai jamais dit ça.
Ah, ben, quand même.
Enfin, voyons, c'est proche de ce que vous disiez.
J'ai jamais dit ça.
Ceci dit, je rejoins plus ou moins la thèse, parce qu'avant d'être juriste, je suis avant tout nietzschéen. Et je pense qu'il y a... les hommes forts et les hommes faibles. Et vous savez, je pense que mettre les gens dans la nature, les jeter, c'est peut-être la bonne manière de voir ce qu'ils doivent rester. Parce que 575 millions de consommateurs, je vous avoue que c'est beaucoup, hein, et on a parfois du mal à les sustenter. Alors il en faudrait peut-être 5 millions de moins, 10 millions de moins.
Non, mais là, moi je suis absolument pas d'accord. Ah non. Mais
voyons, je suis juriste, monsieur.
C'est scandaleux, mais enfin, voilà. Non, mais je voudrais même que pour un... un seul type qui ne sait pas nager, les 574 999 autres devraient se mobiliser pour lui donner le droit à ne pas savoir nager. C'est un droit fondamental, ceux qui nagent et ceux qui nagent pas. C'est comme on permet à certains d'être végétariens. C'est une horreur.
Tout le monde est d'accord pour dire qu'un
bon Wedele, c'est quand même formidable.
C'est comme ceux qui sont contre la corrida, vous voyez.
Oui, on en parlait la semaine dernière. Voilà, mais non, je ne pense pas qu'on puisse comme ça parler le mot m'écorche la bouche. Mais bon, vous avez donc 575 millions de consommateurs. En Europe, est-ce que tous mangent du poisson alors ? Parce qu'il faut absolument qu'on aille dans ce sujet crucial.
On parlait il y a quelques secondes de la doctrine végétarienne qui commence à prendre beaucoup de poids dans le fort intérieur européen. Et je pense que de plus en plus, les gens préfèrent manger du poisson que de la viande. Alors grand bien m'en fasse, comme ça je m'enrichis.
Mais il y a des végétariens qui ne mangent même pas de poisson.
Eh ben, oui. il y a des êtres bizarres sur Terre, vous savez. Hein.
Et on sait que les poissons les plus frais, ce sont ceux qui sont congelés sur le bateau. Et donc, parce que quand on dit « je mange du poisson frais », ça fait 3 jours qu'il est sur la glace.
Oui, mais il est froid.
Il est froid.
Ben, c'est ça le plus important.
Quand il est congelé, il est froid aussi.
Ah, mais il est frais.
Il est frais.
Et donc, voilà. C'est du poisson frais.
Voilà, d'accord. Mais quand on tombe à l'eau, de façon... métaphorique, ça veut dire qu'on laisse tomber, et donc on peut à ce moment-là manger ce qu'on veut, je ne sais pas, parce que autrefois aussi, quand j'ai appris à nager, on m'avait dit, il ne faut pas manger de cerises avant d'aller à la piscine. Est-ce que c'est vrai, Zoé ?
Alors, c'est surtout si on boit la tasse, parce que je crois qu'il ne faut pas boire après avoir mangé trop de cerises. Voilà, mais sinon, pour en revenir à ce qui nous concerne, il vaut mieux savoir quand même nager en eau trouble aujourd'hui. Moi, je suis pour que tout le monde apprenne à nager et devienne plus fort dans ces eaux-là.
Mais disons qu'on a perdu toute l'innocence que l'on pouvait avoir il y a 20, 30, 40 ans, quand toute la société n'était pas une espèce de magma de piège. Hein. On ouvre son ordinateur, il faut faire attention, il y a des cookies, il y a des pièges, il ne faut pas cliquer et tout. Enfin, les enfants, on les accompagne à l'école. Autrefois, on descendait dans la rue, puis les petits suivaient les grands, et puis c'était bon. Et les voitures s'arrêtaient pour nous laisser passer. Même les conducteurs garer leur voiture et venaient jouer au football avec nous dans la rue. Hein. C'était quand même formidable. Hein. Une synthèse de toutes les émissions passées de « Vous l'avez bien connu ». Eh bien, aujourd'hui, non. On a perdu cette espèce de sérénité qui fait qu'on accompagne les enfants à l'école, on met son vélo à la cave avec un cadenas de peur qu'on nous le vole. On se promène dans Strasbourg, c'est marqué « piéton, faites attention ». Cycliste, mettez pied à terre. Piéton, marchez à cloche-pied. Hein, bientôt sur le quai des Bateliers parce qu'il y a trop de monde. Enfin, on est dans une société où on ne peut plus rien faire et c'est quand même assez désolant. Alors, manger ou non des cerises avant d'aller à la piscine, je pense que c'est quand même une question de libre arbitre.
Oui, c'est une grande question de liberté, effectivement. D'ailleurs, quand j'étais petite, je n'avais pas le droit d'aller manger des cerises sur l'arbre avant la prise de sang, par exemple. Et en fait, je revenais auprès de mes parents, la bouche pleine du rouge des cerises, le t-shirt tout taché, et j'étais montée sur l'arbre et j'étais bien heureuse. Et on ne m'interdisait pas d'y aller.
Auprès de mon arbre, j'ai été heureux.
Oui, le rouge d'une copine avec son rouge à lèvres qui vous avait embrassé, non.
Non, finalement, non.
Non, c'était pas ça. Non. Alors, bon, je voudrais en revenir à cette histoire d'effraction. On rentre dans une épicerie nuit pour voler des cerises. Comment est-ce qu'on arrive à faire cela aujourd'hui ? Parce qu'il y a des alarmes partout, il y a des cadenas.
Ça, vous savez, c'est des artifices qui sont surtout là pour nous rassurer. Dire un cadenas, n'importe qui peut arriver à l'ouvrir pour peu qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Et oui, tout ça, ce sont des artefacts. C'est pour nous rassurer. D'ailleurs, je vous rejoins quand vous dites que voilà, on peut plus rien faire, etc. Et ben ça, c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup parce que tout ce qu'on peut plus faire, les gens n'ont plus la vigilance. Toutes ces choses-là qui ne font plus partie de la société, on peut les utiliser. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé d'infiltrer une grande entreprise en me mettant du maquillage, en me détachant les cheveux qui sont longs, en mettant une prothèse sur le ventre et me faire passer pour une femme enceinte. Je prends un café dans une main, je prends une feuille dans l'autre et je ne peux plus ouvrir la porte, je suis une femme enceinte, je rentre derrière quelqu'un et tout le monde m'ouvre les portes, tout simplement.
Alors c'est un petit peu jouer de l'abus des choses.
Ah exactement, le cœur de mon métier, c'est d'abuser tout ce qui est abusable. Bon, j'ai la chance de le faire légalement.
C'est un test en fait que vous faites dans ces cas-là.
Exactement.
Voilà. Oui, mais alors quelle est la conséquence de votre rapport? C'est-à-dire qu'ils vont mettre encore plus de barrières, se méfier encore plus des gens?
Bah, s'ils ne veulent pas courir le risque, ça dépend. Par exemple, le risque qu'une personne se fasse passer pour une femme enceinte, etc. On va pas se cacher que ça reste des moyens qui sont si détournés que c'est pas forcément ceux contre lesquels on va vouloir se prémunir.
C'est un truc, on a vu ça au cinéma et tout. Mais ce système de méfiance généralisée et officialisée, vous imaginez Blas et Femme qui arrivent. Eux, ils ont vécu dans le désert, ils ont vu simplement les chameaux, ils ne sont pas accrochés. Non, mais là, c'est des clichés. Mais ils arrivent ici, vous vous rendez compte, le choc culturel pour arriver à comprendre comment ça fonctionne, que tout le monde se méfie des autres. Non ?
Ça fait partie des choses qui...
Ils doivent s'adapter.
Ils doivent s'adapter.
Vous savez, c'est compliqué. Hein. On arrive dans un pays, on les accueille. Vous voulez qu'ils fassent comment ? Ils s'adaptent et puis c'est tout.
Non, mais ça, c'est le vieux discours sur l'intégration et tout.
N'importe quoi.
On a le droit de garder son identité. Bon, ça n'empêche pas qu'il faut apprendre le français, non pas pour communiquer, mais parce qu'une langue, c'est avant tout une culture. Donc, c'est formidable d'apprendre Victor Hugo ou Ernest Hemingway, parce que c'est une traduction,
Joule.
Ou autre chose. Mais s'adapter, c'est compliqué ça.
C'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre, mais ils doivent s'adapter.
Non, mais c'est une uniformisation de la société, c'est une catastrophe, c'est pas possible. Hein?
Je trouve que vous êtes tous trop sur une perspective du bon vieux temps. Si on regarde bien, le bon vieux temps n'était pas si bon que ça. Et pour toi, avec ton effraction, t'as qu'à venir dans Caille, parce que le soir, quand on ferme le magasin, on met les aquariums avec les piranhas à l'entrée. Alors là, le cambrioleur qui passe, il comprendra sa douleur. Parfois, il faut être un peu plus pragmatique et ne pas essayer de tout régler avec des trucs, des machins. Que les gens apprennent à nager, par exemple dans les aquariums que je vends à toute taille et à des prix défiant toute concurrence, et après, ça sera beaucoup plus facile. Ce n'est pas une question d'un droit de l'homme de savoir nager, de ne pas savoir nager. Quand on ne sait pas nager, ça s'appelle une lacune, et nous, dans notre magasin, on peut y parer.
Oui, et en Alsace, il y a des lagunes qui sont magnifiques, dans lesquelles il y a des poissons, et justement, donc, ces poissons... mangeurs d'hommes, ce n'est pas des requins, donc c'est des piranhas.
Des piranhas.
Les piranhas. Imaginons qu'une nuit, quelqu'un qui aurait défié comme une image, qui réussirait à rentrer dans votre magasin d'aquarium.
Koi de Kai.
Koi de Kai, rue du poisson, rue du marché aux poissons.
Oui.
Et qui prendrait les piranhas et, écoutez bien, chers auditeurs, il mettrait les piranhas dans la piscine de la Kibitzeno. Alors, qu'est-ce qu'elle dirait, la maître nageuse ?
On les bouffe.
Ah ben...
On les pêche. On était très forts avec ça, avec mon cousin. Enfin, j'étais meilleure que lui. Hein. C'est-à-dire, où que je sois, je pêche et je sors du poisson. Donc, voilà, on les pêche, on les jette sur le grill et on les bouffe. Voilà, parce que je me posais la question, qui mange qui dans tout ça, en fait, finalement ? Moi, j'aime beaucoup la transgression aussi, puisque en fait, les règles, elles sont faites pour être transgressées. C'est aussi ça, la liberté, hein, finalement.
Oui, hein, ouais, complètement. Bien sûr.
Voilà.
On peut jouer comme ça avec, avec les limites. Et voilà. Passer les limites, il n'y a plus de bornes. Ou passer les bornes, il n'y a plus de limites, oui. Qui était une émission de radio aussi. Oui. Mais effectivement, on peut être... Mais alors, est-ce que ce raisonnement un petit peu... post-mai 68 tard, est-ce qu'on le retrouve dans les 28 pays de l'Union européenne ? Je dis 28 parce que parmi et vos membres de votre association de consommateurs, vous avez conservé les Britanniques, parce que quand même, eux, c'est des spécialistes du fish and chips, hein, donc c'était normal.
Du poisson en général.
Voilà, donc c'est une exception au Brexit.
Vous savez, je pense pas que ce soit leur faire une exception, sinon leur reconnaître leur importance dans notre marché. Mmh. Ce serait perdre énormément d'argent, ce serait perdre énormément d'intérêt que de les exclure de notre association. Alors je pense que oui, il fallait garder le Royaume-Uni et c'était une bonne décision. D'ailleurs, nous pensons à intégrer l'Islande.
Oui, mais c'est l'Islande qui ne veut pas rentrer, ni la Norvège, ni le Liechtenstein, ni la Suisse, les quatre pays européens qui ne sont pas dans l'Union.
Pour ça, il faudrait
et le Vatican.
Rentrer par effraction dans l'Islande et les faire pénétrer dans notre association.
Voilà. Alors, c'est toujours compliqué, mais est-ce que ce serait possible, comme...
Oh, sans aucun doute. Bah, par exemple, si on veut rentrer par effraction dans l'Islande, c'est simple. On va sur un bateau. On tombe à l'eau, on attend qu'un ferry en partance pour l'Islande nous repêche, et paf, c'est parti,
ça marche. Ouais. Alors, est-ce que vous savez qu'en Islande, où les bateaux américains faisaient escale pour faire le plein de l'eau, hein, en 1944, avant
le déluge,
le grand débarquement, les soldats noirs n'avaient pas le droit de sortir du port. Ils devaient rester sur le bateau. Voilà, donc ce beau pays démocratique, et voilà, donc il y avait une espèce d'exclusion, hein, voilà, voilà. C'est poète vos papiers, hein, on le répète souvent ici à l'antenne, c'est quand même un peu désolant, et donc les gens qui sont sur leur matelas pneumatique et qui traversent la Méditerranée sans tomber à l'eau et qui arrivent sur un de nos ports et qui arrivent sans papier... et qui pénètrent par effraction sur nos belles côtes, qui vont rajouter une dizaine ou une vingtaine d'adhérents à votre association, et qui, heureusement, savent nager. Je pense que leur seul métier possible, mais je trouve que ce serait vraiment... Mais alors, je dis ça sans ironie, je pense que tous les gens qui ont traversé la Méditerranée comme cela... On devrait leur donner tout de suite l'accueil en leur disant « Passez un brevet de maître nageur, tout de suite. Hein. Vous avez de l'expérience, on pourrait vous embaucher. » Alors bien sûr, dit comme ça, c'est assez cynique, hein, parce que les pauvres, ils ont fait 3 semaines de bateau sans rien manger, si ce n'est un peu de ad hoc. Mais je ne sais pas si c'est... Si on en trouve en Méditerranée, c'est...
Et encore, il faut le faire cuire, c'est compliqué.
Oui, oh, mais ça se mange cru, hein, le poisson. Oui. Hein, c'est la mode. Bon. Enfin, quand on est comme Alain Bombard sur son bateau, oui, manger du poisson cru, c'est compliqué. Mais en tout cas, donc, notre émission prouve bien qu'il y a une compassion possible, qu'il y a des valeurs, l'eau a une valeur, et qu'il y a des valeurs qu'on peut partager dans une piscine ou au fond de la Méditerranée. Alors, la chanson, bien sûr, je suis au fond de la piscine et tout ça. Mais non, nous allons entendre autre chose. Nous allons entendre le générique de fin de l'épisode. C'était, vous l'avez bien connu, l'épisode numéro 14. Fem et Blas sont sur un bateau. Il tombe à l'eau. Avec Zoé Harpel, maître nageur à la piscine de la Kibitzeno, comme une image, expert en effraction, Kai Littmann, vendeur de poissons rouges, Louis Haddock, président de l'association des 570 millions de consommateurs en Europe, à la technique Thomas Marinelli. On se retrouve le mardi à 11h30 et le dimanche à midi. And my name is Ambroise Perrin.